Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à la conférence organisée par l'Agence Bio, conférence sur Cuisinons plus bio des dynamiques urbaines. Conférence qui s'inscrit dans le cadre du programme européen Cuisinons plus bio, qui a pour objectif notamment de sensibiliser les professionnels de la restauration hors domicile aux spécificités et aux valeurs de l'agriculture biologique européenne, d'agir sur la formation des chefs et de mieux informer les acheteurs des initiatives de la transition alimentaire. Petit rappel, le constat aujourd'hui, en termes d'achat, la restauration collective représente 445 millions d'euros en bio, hein, en valeur d'achat. Ça, c'était les données 2022. Et pour la restauration commerciale, 270 millions d'euros. Donc, des enjeux majeurs, notamment en termes d'Egalim. Pour atteindre les objectifs de 20%, puisque à l'heure actuelle, on n'est qu'à un niveau de 7% en valeur d'achat en produits bio. Et puis également en termes de restauration commerciale, puisque pour la restauration commerciale, on est vraiment à des niveaux qui sont assez faibles, 1%, évalué à 1%, sachant qu'en plus, dans ces 1%, 50% de la valeur, c'est du vin. Voilà. Donc du coup, autour de notre table aujourd'hui, nous avons plusieurs intervenants. Donc Anthony Routiot qui est responsable et chef de Papillote et Compagnie, la restauration collective de l'agglo d'Angers. On a Isabelle Carrère qui tient un restaurant très engagé sur la ville de Strasbourg, puisqu'elle est engagée dans la certification bio. On a Antoine Neumann qui est élu à la ville de Strasbourg et qui est en charge de l'agriculture. Et enfin, Marion Tagnou, qui est en charge chez France Urbaine, enfin chargée de mission chez France Urbaine, et qui nous expliquera certainement un petit peu ce qu'est France Urbaine et son action vis-à-vis des métropoles. On déroulera la conférence en trois temps. Si on a un petit peu de temps, on prendra des questions-réponses. Le premier sujet, donc, ce sera cuisiner bio, c'est politique. Et du coup, je vais laisser la parole à Anthony qui va un peu nous décrire le cheminement de l'agglo d'Angers et aujourd'hui comment, enfin où il en est de la part de bio dans la restauration collective.
Bon. Bonjour à tous. Nous sur Angers, alors déjà la cuisine centrale, on est une société publique locale, c'est-à-dire on cantonne uniquement à l'agglomération d'Angers. Il est commune adhère à la société publique locale et ont des demandes fortes sur la partie bio que nous on répond favorablement. Petite histoire aussi, c'est qu'en 2019, on a fait le choix de reprendre en main nos achats. Avant 2019, on était à peine 10% en bio et en 2022, on est à 33% de bio. Donc ça veut bien dire que quand on maîtrise nos achats, on maîtrise nos menus, forcément, on va un peu plus cibler sur le sourcing de bio local que si on avait une société de restauration derrière nous.
Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur comment s'est fait le cheminement et l'intégration de produits bio dans ta restauration, au niveau de la peut-être l'accompagnement et puis un petit peu le sourcing aussi?
Alors, l'acheminement s'est fait au fur et à mesure. Tout d'abord, en fait, l'acheminement se fait aussi sur les menus, c'est-à-dire revoir la conception sur la partie menu. Quand on veut dire bio local, ça veut dire qu'on veut dire cuisiner des produits bruts et pas transformés. Donc ça, c'est un vrai acheminement sur la partie cuisine. Et puis, on a une volonté politique forte sur Angers d'avoir des objectifs. Egalim, pour nous, c'est déjà derrière, mais d'avoir des objectifs encore plus ambitieux que Egalim. Donc, c'est vrai que nos administrateurs sont très impliqués. Ils viennent avec nous sur la partie dégustation de nouveaux produits dans nos appels d'offres. Donc, ils sélectionnent avec nous les marchandises, les produits. On les goûte, on les teste en cuisine. Donc, la demande, elle est assez forte de la part de nos élus et ça nous aide justement à aller de l'avant sur les objectifs.
Merci Anthony. Du coup, je vais laisser la parole à Isabelle. Et Isabelle, donc du coup, on voit un engagement d'une collectivité pour introduire plus de produits bio. Isabelle, toi, donc on est au pays de la gastronomie, de la cuisine française. Tu as un engagement personnel. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cet engagement-là et comment tout naturellement, bah, tu as été conduite à travailler des produits bio?
Donc nous, du coup, bonjour à tous. On a lancé la cuisine de demain sur Strasbourg il y a un peu moins de 3 ans maintenant. Et c'est vrai que nous, on s'est lancé dans l'idée de faire la cuisine la plus vertueuse possible. Et bah forcément, la bio s'est imposée à nous donc pour voilà, tous les bienfaits qu'on connaît pour la planète et pour la santé. Mais ça s'est vraiment inscrit, nous, dans une démarche de cohérence globale. Donc, c'est-à-dire évidemment la nourriture bio, mais locale également, zéro déchet. On fait de la livraison soit à vélo, soit en véhicule électrique. Donc, c'est l'ensemble. Je trouve que la valeur du bio s'intègre bien dans ce projet global pour la planète de demain.
Très bien, merci. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ton engagement, la certification, 95% de produits bio
Oui, tout à fait. C'est vrai que moi, quand je me dis que la bio, c'est une évidence pour nous, c'est qu'on est à 100% de bio, en fait. On a fait le choix de ne cuisiner que ce qui est bio et local. Donc, si on ne trouve pas, on ne cuisine pas. Et comme tu le disais, dans l'Alsace, ça va, on a quand même une richesse d'aliments, une variété alimentaire qui est là et qui nous permet justement de prouver qu'on peut se nourrir de façon gourmande et saine et variée avec ce qui pousse à côté de nous et qui pousse bien.
Très bien, merci Isabelle. Du coup, la parole à Antoine. Et donc, on a vu qu'on avait des expériences individuelles, des expériences collectives. Comment la ville de Strasbourg est-elle aujourd'hui amenée à accompagner toutes ces initiatives en termes de production et de valorisation de la production bio locale?
Déjà, il faut revenir à la base. Bonjour tout le monde. Pourquoi une collectivité comme la ville de Strasbourg et la métropole va s'engager sur la promotion l'agriculture et de l'alimentation biologique? C'est parce qu'on a un impératif de long terme qui est de protéger le territoire, protéger la santé des sols, la santé de l'eau, la santé de l'air, la santé des enfants. Et à chaque fois qu'on prend le problème par un bout à un autre, on tombe toujours sur le levier agricole à un moment ou à un autre. Et on a l'obligation vis-à-vis du territoire et de ses habitants d'améliorer tous les curseurs sur ces questions-là. Et la partie agricole de l'amélioration qualitative, c'est le passage au bio à tous les échelons, dans l'assiette et jusque dans les champs, quoi. Donc nous, on a pris le pli depuis le premier jour du mandat d'identifier dans une région, dans un département et même maintenant, on peut le dire, dans un pays et depuis hier avec le vote au Parlement européen dans un continent qu'on n'a pas grand-chose à faire de la santé environnementale, nous, on n'a pas fait le travail d'identifier tous les leviers qu'on avait dans les mains pour pouvoir favoriser ça. Donc on a, après, je ne vais pas faire le catalogue de tout ce qu'on met en œuvre, mais on fonctionne beaucoup par partenariat. L'idée, ce n'est pas d'imposer les choses à une profession ou une autre, c'est de créer les opportunités pour que le mieux-disant environnemental deviennent des marchés. On parlera après des cantines scolaires que j'ai aussi. Hein. Je n'ai pas que l'agriculture, j'ai alimentation et cantines scolaires. On parlera de ça, mais on a à Strasbourg, par exemple, on a initié les paniers bio pour les femmes enceintes. Une grossesse sur deux à Strasbourg qui est concernée, c'est des centaines de milliers d'euros chaque année pour les agriculteurs du territoire. C'est un marché. On fait des paiements pour services environnementaux pour les agriculteurs qui ont des pratiques ou des évolutions de pratiques qui protègent les ressources en eau. À Strasbourg, on a la plus grande nappe phréatique d'Europe sous les pieds. On a la responsabilité de la protéger. On considère que le bio, ou en tout cas tout ce qui tend vers le bio, c'est du mieux-disant et il faut le pousser. Et après, on favorise les circuits courts, l'information, tous les leviers. Voilà, on est dans vraiment une politique d'identification de tout ce qu'on peut actionner à notre niveau. Et on se dit que si chaque échelon faisait le job de son côté, il n'y aurait aucun problème environnemental dans ce pays. Les agriculteurs bio vivraient très bien et les autres voudraient tous passer au bio, quoi.
Merci beaucoup, Antoine, pour ces précisions. Du coup, Marion, est-ce que tu... Donc là, on a vu des témoignages de la restauration collective, de la restauration individuelle, des engagements. On voit l'exemple de la ville de Strasbourg qui s'engage sur la dimension production. Aujourd'hui, au niveau des métropoles, quelles sont les dynamiques que tu observes? Et explique-nous un petit peu le rôle de France Urbaine. Voilà.
Bonjour et merci pour l'invitation. Ça fonctionne? Plus près? Là, ça fonctionne? Ah, je le colle vraiment. Ok. Merci pour l'invitation. Donc, France Urbaine représente les métropoles, mais aussi les grandes villes à partir de 100 000 habitants et plus généralement les agglomérations à partir de 250 000 habitants. Et c'est aussi une association transpartisane. Ça veut dire que ça va refléter aussi une diversité de couleurs politiques au niveau de l'association. Et on voit que l'alimentation, ça marche mieux. C'est une préoccupation qu'on va retrouver vraiment dans tous nos territoires, voilà, toutes les grandes villes et toutes les agglomérations. France Urbaine s'est intéressée à ce sujet depuis 2018, dans la lignée du pacte de Milan, qui regroupe des villes au niveau international. Et puis ensuite, on a eu plusieurs phases de mobilisation des grandes villes et des grandes agglos, avec notamment un tournant ces dernières années, Plus particulièrement, une prise de conscience assez forte aussi avec la crise sanitaire. Également des choses qui ont poussé davantage le territoire à intervenir liées à la réglementation. Egalim a été un levier. De la même façon, le financement des projets alimentaires territoriaux a mobilisé de plus en plus les territoires via les crédits du plan de relance à s'investir sur ces questions-là. Et on voit que ce qui se produit en fait dans nos territoires, c'est vraiment une articulation entre les politiques des villes, voilà, un noyau qui commence par la restauration collective et les cantines, qui va ensuite s'étendre et s'élargir aux autres politiques à l'échelle du bassin de vie. Et on a cité notamment un lien qui se fait de plus en plus entre la préservation de la qualité de l'eau et les politiques alimentaires. On le voit de manière de plus en plus nette, articulé avec une préoccupation sur la santé globale et la santé environnementale. Alors, le levier de la santé est un levier assez consensuel pour que chacun travaille à améliorer la santé de la population. Et enfin, un dernier point, qui est un sujet montant aujourd'hui aussi et qui génère des politiques publiques de plus en plus importantes au niveau national, mais aussi au niveau local, c'est la lutte contre la précarité alimentaire et le souci de garantir la qualité de l'alimentation pour tous les revenus.
Merci Marion. Du coup, je te laisse encore la parole, puisque derrière, il y a aussi cette dimension en lien plus avec le métier de la restauration, qui concerne le métier de toute la partie logistique, la partie approvisionnement. Comment ces questions-là sont abordées au niveau des métropoles? Quels exemples tu peux mettre en avant au travers des missions que tu occupes? Et est-ce que cette question est vraiment saisie en termes de sécurité alimentaire, en termes d'approvisionnement de la restauration?
Oui, comme je l'évoquais, on a d'abord le noyau d'origine qui est la restauration collective, les cantines. Et en fait, à partir de ce noyau qui va avoir un axe consommation, on va vraiment avoir un travail de traitement toute la chaîne de production jusqu'à l'amont. En fait, le fait de pouvoir faire de la commande publique, et encore c'est un point assez complexe et on travaille là-dessus aussi pour essayer de simplifier les choses, le fait de faire de la commande publique permet de créer des débouchés pour des producteurs, donc éventuellement de les soutenir pour changer leurs pratiques, éventuellement les relocaliser s'ils ne sont pas présents sur le territoire. Mais ça ne suffit pas, puisque assez vite, ces producteurs vont avoir besoin d'outils complémentaires qui sont plus ou moins présents sur le territoire, la transformation, la conservation, la logistique et l'aide à la réponse aux appels d'offres. Donc soit j'ai déjà des outils et des structures qui existent, et les GAB notamment peuvent assumer une partie de ces fonctions sur nos territoires, soit je n'ai pas forcément l'outil et il va arriver que certains territoires le créent. On peut penser récemment à un outil de transformation qui a été créé, une légumerie par Dijon Métropole. Légumerie qui a vocation à monter en capacité pour d'abord soutenir les besoins de la restauration collective publique et éventuellement, pourquoi pas, pour appuyer aussi un soutien aux producteurs locaux, y compris pour l'ensemble de la restauration hors domicile. Et ces alliances entre la restauration collective, les cantines et transformation, conservation, logistique, je vais les retrouver dans de nombreux territoires. Je vais retrouver aussi le même type de projet à Montpellier. C'est les mêmes logiques qu'on va trouver aussi via Agri Parisienne qui vient de se structurer et qui est une alliance entre Rouen, Paris, Le Havre, donc aussi une alliance transpartisane entre différents types de collectivités. Donc ces démarches en fait sont à peu près les mêmes et se déploient sur l'ensemble des grands pôles urbains, avec en plus un point qui est extrêmement important, c'est la maîtrise par ces métropoles des mines, les marchés d'intérêt national, qui sont des grandes plateformes logistiques qui peuvent être des outils structurants de relocalisation de l'alimentation et de soutien aussi à la logistique en matière d'alimentation.
Merci beaucoup Marion pour ces précisions. Du coup, Antoine, tu évoquais que tu avais cette double casquette aussi des cantines scolaires. Est-ce que tu peux nous en dire plus un petit peu sur les objectifs en fait, que vous fixez l'année prochaine sur la restauration collective, au-delà de ces ambitions-là, peut-être évoquer, on n'en avait pas parlé, mais peut-être sur des dimensions logistiques aussi, puisqu'on a eu un petit échange avant. Voilà, comment ça va être travaillé au niveau de la ville de Strasbourg pour les années à venir?
Bon, donc c'est compliqué parce que c'est à voix simple et compliqué parce qu'on est tout en liaison froide. À Strasbourg, c'est 13 000 repas par jour, donc c'est deux prestataires, c'est un marché qui est divisé en plusieurs lots, mais il y a deux prestataires principaux. Et là, notre travail, c'est d'améliorer l'existant et de réfléchir à ce qu'on voudrait dans l'idéal, c'est-à-dire plutôt des cuisines dans les écoles, et ça. Mais ça, c'est un travail de long terme. Mais l'actualité, l'urgence, c'est d'améliorer l'existant. Améliorer l'existant, c'est monter en qualité, notamment sur le bio, où là, à la rentrée 2024, on a voté ça il y a deux semaines à Strasbourg, on sera à 50% de bio, dont les deux tiers de local. On sera aussi sur un sujet dont on parle moins, qui est le bien-être animal. On aura des clauses vraiment mieux-disantes et des filières mieux-disantes, notamment sur le porc, sur la volaille, tout ça. Et on a aussi tout le travail aussi dont on parle peu, qui est celui sur les perturbateurs endocriniens et les additifs, où là, on supprime un grand nombre de produits, ce qui n'est pas sans conséquence sur le goût et l'aspect de ce qui arrive dans les assiettes. Si on arrive à faire ça, c'est d'abord parce que c'est une demande des parents aussi. Les gens veulent que leurs enfants mangent le mieux possible. On essaye de le faire en respectant toujours le coût, c'est-à-dire il y a des surcoûts, mais c'est un choix politique de les assumer. Nous, à Strasbourg, le prix des repas n'a pas augmenté d'un centime depuis le début du mandat en 2020, alors qu'au niveau qualité, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup augmenté. Et on y arrive aussi parce qu'on travaille de manière partenariale avec la profession, avec les acteurs, et on ne demande pas 50% de bio à un territoire qui n'est pas capable de les fournir. Pour nous, c'est des marchés, c'est ce que je disais tout à l'heure, on ouvre des marchés et on montre aux agriculteurs que c'est dans leur intérêt d'augmenter les surfaces, d'augmenter la production, et que derrière, il y a des marchés à prendre, que s'ils ne les prennent pas, c'est les collègues du Sud, du Sud-Ouest, de je ne sais où qui les prennent. C'est très dommage pour le territoire. Moi, je dis, c'est stupide de laisser ces marchés aux autres. Donc, on ouvre le chéquier pour que ce soit intéressant pour tout le monde. Et après, niveau logistique, bon, ça, on a des études sur les flux alimentaires, mais ça, c'est... Je propose qu'on en reparle plus tard, qu'on aura vraiment des données et des solutions surtout. Mais on travaille, comme disait Marion, avec le marché d'intérêt national de Strasbourg, donc l'équivalent du Rungis de Strasbourg, pour voir voilà, toute cette logistique du dernier kilomètre, comment l'affiner, comment la rendre plus vertueuse, moins polluante. Nous, Strasbourg, pour info, c'est 500 morts par an à cause de la pollution de l'air sur la métropole. Donc, passer au bio, c'est aussi travailler là-dessus. Hein. Et ça ne sert à rien de passer au bio si derrière, on a une logistique qui fait n'importe quoi et qui repollue derrière. Donc voilà, c'est toujours un travail de dentelière. Alors, je ne sais pas si c'est maintenant où je parle de mon truc, là, mais...
Si tu veux, tu peux évoquer le comité de
juste
partenariat.
Juste pour finir là-dessus, la question partenariale est essentielle. Donc, il y a le partenariat national, notamment avec France Urbaine, qui pour nous est très important parce qu'il est transpartisan. On a des problématiques qu'on a à Strasbourg, ils ont les mêmes au Havre, ils ont les mêmes à Marseille, ils ont les mêmes partout à Angers, c'est la même chose. Et on se retrouve sur des propositions. Malheureusement, à l'heure actuelle, je ne sais pas pourquoi, ces propositions de bon sens des collectivités locales ne sont pas relayées au niveau national et bon, au niveau européen, c'est encore autre chose. Voilà. Et juste, on travaille dans le cadre du projet alimentaire territorial de Strasbourg, qui est là une instance dans laquelle on met tous les partenaires liés sur le territoire par la question alimentaire, les financeurs, les acteurs. Bon, aussi les entreprises qui sont vraiment le bout de la chaîne. Et je tiens à disposition de ceux que ça intéresse ça parce qu'un des travaux, une des responsabilités des collectivités, c'est de mettre tout le monde dans la pièce autour de problématiques très précises. Voilà comment on fait monter le bio dans les cantines, qui produit pas, qui transforme, qui... voilà. Et le côté partenarial est essentiel et aussi en interne dans les services, faire bosser des services d'une collectivité dans le même sens sur une thématique où ils n'avaient pas l'habitude de se parler, c'est aussi une révolution chez nous. Et souvent, ça passe par là, c'est bête. Il faut une personne dans une collectivité qui anime la transversalité de la question alimentaire. Déjà, souvent, quand on a cette personne identifiée, on fait avancer beaucoup, beaucoup de dossiers. Mais ça, voilà, si vous voulez en discuter après, je suis là. Hein.
Merci, merci beaucoup, Antoine. Du coup, donc, Isabelle, Anthony, vous avez accepté d'être nos chefs ambassadeurs de la campagne Cuisinons plus bio, puisque dans le cadre de la campagne Cuisinons plus bio, nous avons 13 chefs ambassadeurs, un ambassadeur par région. Je reviens sur la thématique du sourcing et de la logistique. Isabelle, toi, dans ton quotidien, je voudrais savoir un petit peu comment tu travailles ce sourcing. Quelles sont les problématiques que tu rencontres? On voit aussi quelles attentes tu peux avoir en tant que commerçant engagé dans le bio par rapport à des logistiques. On pourrait évoquer le kiosque paysan, par exemple, qui existe sur la métropole de Nantes et qui travaille en synergie avec des collectifs, des plateformes. Quelles sont tes attentes? Quelles sont tes difficultés? Qu'est-ce que tu attends aussi de l'avenir? Comment tu vois se développer les choses?
Tout ça à la fois. Très bien. Non, mais alors clairement, oui, la logistique, nous, c'est une part importante du métier, alors qu'à la base, on est plutôt dans la cuisine. Mais effectivement, on a plus d'une trentaine de producteurs avec qui on travaille. Et c'est des commandes quotidiennes, c'est des livraisons quotidiennes. Et effectivement, le fait que sur Strasbourg, on sent bien que ça commence à se structurer, On a des grossistes qui se mettent en place, enfin des regroupements de petits producteurs. Donc, eux, ça leur permet d'accéder à notre type de restauration. Donc, ça, c'est très bien. Mais c'est vrai que pour l'instant, de notre côté, c'est beaucoup de temps passé manuellement pour faire ça. Donc, effectivement, ça serait beaucoup plus simple de passer à juste un coup de fil avec toute la commande comme on peut le faire en restauration traditionnelle. Donc, oui, aujourd'hui, il faut qu'on arrive encore à fluidifier tout ce chemin de la terre à l'assiette, comme on dit souvent, quoi. Mais en tout cas, si on a la motivation et qu'on peut le faire, c'est faisable.
Et aujourd'hui, comment tu travailles les produits? Avec quel producteur bio? Comment? Parce que pour arriver à 95% de produits bio, j'imagine que tu vas travailler quand même prioritairement sur du local. Même que, peut-être, je ne sais pas. Comment tu fais? Et avec qui tu travailles? Enfin, est-ce que tu peux nous les mettre en valeur un petit peu, ces acteurs de la production?
Oui, bah, comme je le disais, on en a une trentaine, donc je ne vais pas vous les citer, ça ne vous parlera pas beaucoup. Mais toujours est-il qu'on travaille avec une carte de saison, on a une carte mensuelle. Et surtout, bah, cette carte, on la fait en fonction des disponibilités du territoire. Donc on ne part pas de ce qu'on a envie de faire, mais de ce que la nature est capable de nous proposer finalement. Et donc à partir de là, bah, tout l'enjeu de notre équipe en cuisine, c'est de créer, c'est d'inventer, et puis bah, c'est de mettre en avant bah, tous ces produits-là et de créer des recettes aussi simples que bonnes, tout simplement. C'est pas si compliqué que ça, finalement, de faire une bonne cuisine avec ce qui pousse chez nous.
Et est-ce que tu considères, par exemple, que la certification, elle te valorise suffisamment par rapport à ton engagement? Puisque, Anthony, on pourra parler des Galim tout à l'heure, il y a quand même un des engagements nationaux. Là, on reste sur une micro-certification. J'imagine qu'il y a d'autres certifications aussi. On peut parler des quotas, on peut parler de... comment tu considères cette certification-là?
Ce que je trouve aujourd'hui assez dommage, c'est que la certification bio, pour moi, c'est la plus importante parce que c'est la plus exigeante. Et je ne suis pas certaine aujourd'hui que le public sache tout ce que ça représente derrière comme engagement au quotidien pour avoir cette certification AB. Voilà, ça veut dire qu'il y a 100% de mes ingrédients dans la cuisine qui viennent du bio. On n'a jamais le droit à l'écart, et de toute façon, on n'en a pas envie, mais c'est vraiment une droiture et un engagement de toute l'équipe. Donc, il faut aussi quand même que tout le monde soit embarqué dans cette ambition-là. Et effectivement, je trouve qu'on pourrait aller plus loin, en tout cas sur la sensibilisation du grand public, sur quels sont les bénéfices pour lui de manger ce bocal avec ce qui est local, ce qui est bio, que ce soit pour la planète, que ce soit pour lui, que ce soit... Voilà, là où il investit son argent, finalement, pour soutenir, en fait, une entreprise qui a des salariés qui souhaitent changer les choses pour demain. Donc, voilà, la certification, elle reste pour moi essentielle, mais effectivement, communiquer davantage dessus, ce serait quand même faire comprendre, en tout cas, ce qui se cache derrière, me semble encore nécessaire aujourd'hui.
Merci beaucoup, Isabelle, pour ces précisions. Du coup, Anthony, je vais revenir à nouveau sur les questions de sourcing, d'approvisionnement, sur les difficultés, mais en même temps la réussite, puisque Egalim fixait 20% de produits bio dans la restauration collective. Et donc, le fait d'avoir un cap, ça permet aussi de travailler, de structurer tout ça, d'organiser tout ça en interne. Aujourd'hui, vous êtes peut-être à plus de 30%. Tu pourras nous donner plus de détails. Comment est-ce que tu vois l'avenir et comment votre outil permet de structurer structurer un approvisionnement, sachant que peut-être qu'il faudrait que tu spécifies aussi, toi, tu es sur une agglomération, donc il y a la ville, mais il y a aussi les communes qui sont tout autour et toutes les synergies qui sont rendues possibles à la fois en termes de débouchés, mais peut-être aussi d'identification d'acteurs locaux et bio.
Alors, ce qui est compliqué, c'est quand on est soumis au code des marchés publics et on veut faire 50% nous de bio en 2030 et 80% de local. Déjà, ça, c'est une chose difficile. Donc, sur la phase de sourcing, on rencontre les fournisseurs. On va éplucher aussi dans le détail. Alors, je prends l'exemple des pâtes. Chez nous, c'est 100% des pâtes sont bio, locales, artisanales. On va aller jusqu'à la semence du blé dur. On va aller jusqu'à la taille de la pâte, la taille de la lasagne, qui va un petit peu orienter et cibler le producteur pour qui on veut travailler, avec qui on veut travailler. Donc ça, c'est toute une phase de sourcing et d'accompagnement en amont. Les PAT, aujourd'hui, sont là un petit peu pour mettre en lien tous les acteurs qu'il y a sur le territoire qu'on ne connaît pas forcément. Parfois, on a un producteur à 10 km et on ne sait pas qu'il aurait un produit qui serait susceptible de nous convenir à nous. Et puis, les partenaires, par exemple, sur la partie légumes. Alors, nous, on a une grosse cuisine centrale, un peu comme Strasbourg, on est à 14 000 repas, donc on est en liaison froide. On a fait le choix, il y a 15 mois que la cuisine allait monter, on a fait le choix de ne pas avoir de légumerie. Parce qu'il y avait une légumerie sur le territoire d'insertion professionnelle qu'on voulait garder. Et en fait, cette articulation, elle est bonne, c'est qu'on envoie, nous, les producteurs, vers la légumerie. Le marché, marché public, on est bon, parce que nous, notre intermédiaire, la personne avec qui on travaille, c'est la légumerie, c'est pas le producteur. Donc ça, c'est plutôt une triangulaire qui est plutôt bonne. Et puis, on va aller jusqu'à sélectionner aussi des variétés de pommes de terre. On veut des variétés pour les purées un peu plus à l'amidon. Donc, on va faire des tests dans les champs. Donc, on est cuisinier, mais à un moment donné, on met les bottes aussi, parce que on a besoin de sélectionner les produits. Et ça, c'est des choses intéressantes, parce qu'un cuisinier, il aime le produit brut, il aime le voir. Et puis, ça raconte aussi une histoire aux enfants. C'est toute la partie animation, communication qu'on doit faire, qu'on fait avec les producteurs sur les écoles. Les enfants, ils sont captivés quand ils voient un légume, qu'on voit, on le raconte. Donc ça, ça aide à changer l'alimentation. Changeons tous ensemble notre façon de manger de demain, parce que le paysage, il a besoin d'être changé.
Ah, super, Anthony. Du coup, tu fais un super trait d'union avec la notion de mangeur, qui est vraiment importante et qui vous réunit tous les deux, en fait. Aujourd'hui, est-ce que vous considérez que le bio a plus de goût et a plus de saveur? Et comment on le travaille voilà, et quel est votre sentiment là-dessus, franchement?
Je suis un convaincu du bio, donc je vais te dire largement oui. Puis je vais vous donner des exemples, parce que moi, je suis quelqu'un qui parle de factuel. Donc, je prends l'exemple des légumes verts. Hein. Donc, un légume vert conventionnel, après cuisson, il va plutôt tirer au gris. Les épinards, par exemple. Alors, chez nous, les épinards, c'est quelque chose qui est très apprécié des enfants. Et puis, un épinard bio, il va rester vert. Hein. Malheureusement, c'est la vérité. Sur les viandes, on va parler des volailles. Les volailles lourdes, c'est minimum 80 jours d'élevage. Une volaille conventionnelle, ça va être 35 jours. Les taux de rendement ne sont pas les mêmes. Donc oui, le prix, il est plus cher au départ. Gustativement, il n'y a rien à voir. Les yeux fermés, je vais vous trouver le bio et le conventionnel sans difficulté. Donc, pour ta réponse, c'est un grand oui. Ouais, il n'y a pas photo.
Et Isabelle, du coup, est-ce que tu peux nous donner ton témoignage de mangeur dans ton restaurant et même toi
Oui, c'est ça, parce que moi, goûter, c'est aussi mon quotidien, finalement. Donc, non, évidemment, je suis d'accord avec Anthony. Et de base, de toute façon, c'est aussi sur si on parle des fruits et légumes qui sont cueillis à maturité, donc qui ont eu le temps aussi d'être au maximum de leur potentiel gustatif, nutritionnel, etc. Donc, de base, c'est aussi meilleur, tout court, pour la santé. Donc, un grand oui, évidemment.
Ok, du coup, merci Isabelle. Et le troisième sujet qu'on voulait aborder, c'était vraiment... C'était le sujet de la formation et de l'information. Et donc là, je vais peut-être poser une question un peu ouverte, mais Antoine et Marion, vous allez peut-être pouvoir introduire le sujet. C'est la notion de la formation aujourd'hui, la formation professionnelle dans les équipes. Est-ce que, de par vos casquettes différentes, est-ce que ce sont des sujets qui ressortent, l'accompagnement, la formation des professionnels a des enjeux? Alors, il y a le bio qui est intégré dedans, mais des enjeux de préservation de la planète, des enjeux d'économie sociale et responsable. Est-ce que ce sont des sujets qui vous semblent très importants à travailler par la suite? Et est-ce que d'ores et déjà, ça ressort un petit peu de par vos expériences?
Je pense que c'est la première étape, de toute façon. Donc, moi, je représente une collectivité. On ne fait rien si on n'a pas l'acceptation des équipes qui vont mettre en œuvre les politiques. Ça, c'est la première chose. Donc, il faut déjà convaincre ceux qui ne sont pas convaincus, parce qu'il y a aussi ceux qui attendaient juste un feu vert, par exemple, dans les services de la ville et de la métropole de Strasbourg. Il y a beaucoup de gens qui bossaient sur les questions agricoles, sur les questions protection environnementale, sur les questions de santé, qui étaient déjà convaincus. Donc, il n'y avait rien à faire. Il y avait juste à leur donner des moyens et un cadre pour qu'ils puissent exprimer les idées qu'ils avaient et ce qu'ils voulaient mettre en place. Mais nous, notre responsabilité, je l'ai esquissé avant dans le cadre du projet alimentaire territorial, c'était vraiment d'acculturer en interne à la ville et à la métropole les services et leur dire, par exemple, allez voir le service qui va gérer la précarité alimentaire, qui est un gros sujet. Hein. Strasbourg, c'est 26% de personnes sous le seuil de pauvreté. Une personne sur 10 dépend d'aide alimentaire. Et de leur dire, c'est pas parce que c'est de l'aide alimentaire que ça doit être des produits bas de gamme, machin. Nous, on veut que le plus grand nombre ait accès à la meilleure qualité. Donc, le bio, du coup, directement se met à concerner des services, par exemple, précarité alimentaire, pour qui ne se posaient pas la question. C'est pas qu'ils étaient contre ou pour, c'est qu'ils se disaient pas. Leur priorité, c'était de trouver de la nourriture. C'était pas quelle était la qualité. Et maintenant, ils se posent la question. Et après, on va les présenter aux services qui vont gérer la production. Et ceux qui gèrent la production, eux, ils sont maintenant en contact avec ceux qui protègent la ressource en eau. Du coup, on va avoir une passerelle entre précarité alimentaire, protection de l'eau, etc., etc. Et ça, maintenant, en interne chez nous, ça, on appelle ça de la formation, de l'information, comme vous voulez, mais c'est déjà un acquis, en tout cas. Et il faut, excusez, il faut des gens pour l'animer, par contre. Ça, c'est...
Oui, et j'imagine, par exemple, la commande publique aussi, service juridique, qui est un peu au centre et au cœur du dispositif, qui est l'aboutissement de tout ce travail. Non,
nous, on ne dit pas la commande publique, on dit la commande publique durable. Non, c'est, ouais, ouais. Et c'est important. Et à Strasbourg, ville et métropole, ce n'est pas le moins disant qui a le marché systématiquement. Le cahier des charges va bien plus loin. Il y a des clauses sur l'économie sociale et solidaire, il y a des clauses sur l'insertion, il y a des clauses sur l'environnement, il y a des clauses, beaucoup de clauses. Et on arrive à faire tourner tout ça.
Sur l'eau, notamment, j'imagine.
Ah bah, sur l'eau, ça, on le met. Mais c'est plus, enfin, c'est plus compliqué. Mais il y a Rennes qui a beaucoup travaillé là-dessus. On est allé faire un petit voyage à Rennes pour voir comment ils faisaient dans leur commande publique, justement, pour favoriser la protection de l'eau. Et on est revenu avec des bonnes idées. Et on a vu qu'on faisait déjà des trucs pas si mal, en fait. Mais oui, la commande publique, c'est essentiel. Et nous, 80, juste pour info, 80% de l'argent reste sur le territoire. C'est notamment par ces clauses particulières, quoi.
Et Marion, du coup, il y a le travail des salariés, du personnel des villes. Les élus, du coup, cette thématique-là, comment elle est abordée et...
Résultat, je vais aussi compléter sur la question également des équipes, puisque quelque part, la formation ne va pas forcément viser en tant que telle l'introduction du bio, mais vraiment la globalité de la transformation de l'usage des produits. Et donc le triptyque végétalisation, réduction des déchets, et modification des produits introduits dans la restauration scolaire. C'est vraiment ce triptyque-là, parce que déjà, les obligations légales vont viser ces trois aspects, ou parce que aussi l'équilibre économique et l'équilibre d'ensemble des menus va être mieux atteint quand on introduit les trois dimensions en même temps. Il y a beaucoup de débats sur le coût du passage au bio dans les cantines, et ce coût est en partie amorti quand on est vraiment sur l'ensemble de ces leviers qui sont mobilisés. Donc c'est important aussi de former sur cet aspect-là les équipes. Et on voit émerger d'ailleurs des structures de formation parfois internalisées. Je pense à la démarche qu'a fait la ville de Rennes, où là, ils sont sur une dynamique d'école de formation pour leurs cuisiniers. Ce qui est intéressant, c'est que c'est déjà, ça permet de lancer et approfondir une dynamique. Ce qui est intéressant aussi, c'est que ces enjeux de formation viennent aussi mobiliser des équipes et valoriser des métiers qui aujourd'hui sont des métiers en tension en termes de recrutement. Donc il y a vraiment un gros enjeu d'image, de valorisation, de soutien pour réussir à s'assurer qu'on a les équipes sur place pour réussir à faire ce travail. Sur la formation, deuxième point aussi, ça peut viser également les interrogations que peuvent avoir certaines villes sur la reprise en régie, puisque ça peut être aujourd'hui une interrogation pour réussir à travailler ses menus et à atteindre le bon équilibre économique. Parfois, il faut réduire la chaîne de valeur, en fait, il faut réussir à l'avoir internalisée. Tout le monde ne peut pas le faire, ça peut être assez complexe, notamment dans certains grands centres urbains, mais la formation peut viser ce point-là. Et évidemment, ce qu'on évoquait aussi sur l'articulation entre politique achat et politique opérationnelle, c'est faire qu'un service juridique ne soit pas sur une logique du « on ne peut pas faire », mais sur une logique de « comment peut-on faire ». Et ça aussi, c'est un renversement culturel aussi d'approche, et les services achats aussi volontiers entrent dans ces logiques-là. S'agissant des élus, le sujet de la formation va peut-être être plutôt celui du sujet de partage de pratiques, et de voir comment on va aller chercher auprès des différents réseaux la façon dont les meilleurs ont avancé, apprendre à se copier les uns les autres, en fait. Ne pas perdre de temps à réinventer l'eau tiède. Les bons qui ont trouvé la solution en premier doivent être en mesure de la diffuser facilement, et donc ça veut dire diffuser toute l'information. Les bons outils, les cahiers des charges, le processus, a-t-on associé à quel moment. Et pour ça, on a de très nombreux réseaux qui travaillent le sujet. La question presque aujourd'hui, c'est de s'assurer que nous, réseau, on ne vient pas trop noyer quelque part les élus qui sont délégués à ces politiques-là en transmettant trop d'informations. Parce que c'est devenu un sujet vraiment très à la mode aussi, l'alimentation. Donc il faut être au bon endroit pour profiter de l'information sans être noyé et trop mobilisé aussi par ces partages de pratiques.
Ah, merci beaucoup Marion pour ces précisions. Du coup, je reviens vers Anthony et Isabelle. Vous recrutez du personnel, voilà. Comment se fait cette dimension formation, accompagnement et travailler? Comment vous arrivez à la travailler? Quelles seraient vos attentes justement pour la renforcer? Et est-ce que vous avez le sentiment aussi que le public qui tape à votre porte aujourd'hui est sensible à ces questions du bio, de la préservation de la planète. Et voilà.
Donc oui, effectivement, tout ce qui va être nouvelle génération, on sent bien que ça fait partie de leurs préoccupations, qui sont de plus en plus exigeants vis-à-vis de la restauration, et je trouve ça bien. Après, nous, personnellement, on a deux apprentis en cuisine, et clairement, ils sont venus chez nous pour nos valeurs. Donc moi, j'ai trouvé ça super de base d'avoir cette ambition-là, de venir travailler le produit brut, le bio, le local. Donc là-dessus, moi, je suis très confiante. Voilà, je ne maîtrise pas suffisamment tous les processus de formation, etc. J'ai juste cet exemple pour moi de jeunes qui ont envie. Donc, je trouve ça chouette. Après, je trouve qu'il y a effectivement tout un travail à faire, certainement autour de stimuler la demande, finalement. Et que ce soit sur les personnes pour leur apprendre aussi davantage, je pense, à cuisiner le bio, retrouver simple, enfin, cuisiner même de base, on va dire, mais se réapproprier finalement la façon de faire. Je rebondis sur l'exemple des paniers repas des femmes enceintes qui sont distribués aux femmes enceintes sur Strasbourg. Je trouve l'idée excellente. Mais du coup, je trouverais ça bien aussi peut-être qu'on puisse les accompagner sur des cours de recettes, que ce soit parce qu'on n'a juste pas appris, voilà, où il n'y a pas eu de transmission. Et puis, pour avoir aussi des témoignages personnels, par exemple, de personnes issues de l'immigration qui, du coup, se retrouvent aussi avec des fruits et des légumes qu'ils ne connaissent pas forcément comment assimiler. Et je trouve qu'il y a toute une richesse à créer autour de ça, sur comment finalement on recrée un lien social, une dynamique, un cercle vertueux autour de cette alimentation durable dans les territoires. Ça, je trouve ça vraiment chouette. Et je tenais aussi comme idée pour, comme tu dis, mieux faire connaître et comment dire, stimuler la demande. Il y a aussi un rôle, à mon avis, du côté des structures publiques, où effectivement, il y a l'accès aux commandes publiques pour des structures comme les nôtres. Donc aujourd'hui, je tiens à souligner effectivement l'effort où dans l'appel d'offres là, récemment de la ville, il y a quand même 30% de bio qui sont demandés au minimum pour le traiteur qui répond. Je trouve que c'est quand même un super effort et que ça va obliger tout le monde, en fait, ça va être tiré vers le haut. Mais ça pourrait être aussi une accessibilité au foncier qui est un peu facilitée pour des structures, créer des halles d'artisans engagés, des choses comme ça. Et ouais, je pense que vraiment aussi toute cette notion de cours et de transmission, ça serait quelque chose vraiment de très, très dynamisant pour le segment du bio.
Merci Isabelle pour ton enthousiasme et ces propositions. Et Anthony, du coup, le rapport, la même question, tes relations avec le personnel, la sensibilisation de tes collaborateurs, des personnes avec qui tu travailles dans les cuisines.
Je reviens exactement sur ce que dit Isabelle. On voit que les nouvelles personnes qui arrivent aujourd'hui sur le marché, ils sont beaucoup plus impliqués qu'il y a 20 ans, notre génération. Ils n'ont pas les mêmes attentes. Moi, par exemple, j'ai recruté deux cuisiniers il n'y a pas longtemps. Ils viennent tous les deux en vélo-cargo. C'est bête, ça peut paraître bête, mais moi, je ne pourrais pas le faire parce que j'habite trop loin de la cuisine centrale, mais j'ai des collègues qui habitent ça à 5 km. Ça les fait réfléchir, en fait. Donc, en voyant ces petites actions au quotidien, du coup, ça nous fait poser certaines questions. Et du coup, c'est tout ce cheminement-là. Et puis, alors, il y a une réelle difficulté quand même sur le marché du travail de la restauration. Il n'y a plus de cuisiniers. Je ne sais pas où ils sont, mais ils ne sont plus là. Voilà. Donc, il faut aussi la restauration collective. On ne nous forme pas la restauration collective. Moi, j'ai fait l'éco-hôtelière. Il y a des personnes de ma promo qui ont arrêté après le bac. Ils n'ont jamais travaillé parce que c'était un problème d'horaire. Nous, cuisine centrale, on peut lier les deux. C'est-à-dire peut-être aller un peu à la source. Il y a peut-être des cuisiniers qui ont l'amour de la cuisine, mais qui ne veulent pas travailler les week-ends et le soir. Eh bien, on peut leur bénéficier de ces deux aspects-là. Donc, je pense que la formation, il faut y aller. Il faut qu'on aille dans les lycées hôteliers, il faut qu'on aille dans les CCI. Il faut prendre la bonne parole parce qu'il y a des bons talents qui se perdent, en fait. Et demain, on n'aura plus de talents. Donc, ça veut dire, si on n'a plus de cuisiniers, eh bien, on ne fait plus à manger. C'est ni plus ni moins là. On va revenir en arrière, du coup, et c'est quand même dommageable d'ouvrir des boîtes. Moi, j'ai commencé en 2006 la restauration collective. Le chef de l'époque, il m'a demandé d'ouvrir une boîte de haricots verts. J'ai donné l'ouvre-boîte, je suis parti, parce que du coup, ce n'est pas la conception même qu'on a de la cuisine. Donc, les choses, elles avancent, Julien. Pas assez vite à mon goût, il faudrait qu'elles avancent beaucoup plus vite. Mais je pense qu'on est là aujourd'hui aussi pour témoigner que les choses sont réalisables, en fait. Il ne faut pas lâcher, la ficelle, je dirais, il faut toujours tirer dessus. Mais ce n'est pas forcément... Au quotidien, pour accompagner les équipes aussi, la formation, c'est l'accompagnement. Les changements de pratique, c'est difficile. Parce que pendant 20 ans, on vous a dit, vous faites comme ça. Et puis, il y a un chef qui arrive et il vous dit non, il ne faut surtout pas faire comme ça. Donc, c'est une remise en question du personnel qui n'est pas forcément bien prise. Donc, moi, je fais toujours des formations actions. C'est-à-dire, quand je suis arrivé, on ne faisait pas de cuisson de nuit. Il faisait bouillir les épices. Il faut reprendre les fondamentaux qu'on a tous perdus de la cuisine. On a tous fait la même formation. Mais à un moment donné, on a perdu les bases. Donc, il faut réapprendre à cuisiner avec les équipes. Ah, un cuisinier doit toujours avoir une cuillère, parce que tu disais, on doit goûter. Moi, ça m'avait surpris, c'est qu'il ne goûtait jamais. Ça, c'est une erreur, en fait. Il faut réapprendre ces gestes-là qu'ils ont perdus, en fait. On a perdu des choses. Il faut leur réapprendre, leur former, les accompagner. Ça peut être fatigant, mais il faut garder le cap et se dire qu'on y arrive, en fait. Il y a des belles choses qui peuvent être racontées.
Ah, super, on va donc tous tirer sur la ficelle hein, pour cuisiner plus bio demain. Du coup, il nous reste quelques minutes, peut-être 2-3 minutes. Je ne sais pas s'il y a des questions dans le public, s'il y a des personnes qui souhaitent poser une question. Non, il nous reste un petit peu de temps. Bon, du coup, je vais réévoquer un petit peu. Il y a une question ? Ah.
Bonjour, Stéphane Dupré, conseiller municipal à Romainville. Je voulais savoir par rapport à la légumerie que vous évoquiez, savoir que vous, dans la cuisine centrale, les légumes, ils arrivent comment ? Est-ce que c'est de la quatrième gamme, c'est-à-dire sous poche plastique, ou c'est les légumes bruts ? Parce que j'ai fait un stage dans une cuisine centrale et effectivement, il y a beaucoup de poches, enfin de légumes sous poche plastique avec des déchets plastiques énormes. Et voilà, c'est moins appétissant à travailler, quoi, je dirais.
Alors, nous, sur la cuisine, on n'a pas de légumes bruts. Justement, c'est des légumes quatrième gamme. Mais on est quand même soumis aux règles sanitaires. Donc, on pourrait pas recevoir les légumes épluchés comme ça. Donc, la légumerie a la compétence d'éplucher les légumes. Nous, la cuisine, on a la compétence de les mettre en valeur, hein, tout simplement. Je ne sais pas si je réponds très clairement à votre question.
Et du coup, ils arrivent comment en cuisine ?
Ils arrivent épluchés.
Mais ils sont stockés dans... Comment ils sont transportés ? Dans quoi ils sont stockés ?
Alors, ils sont transportés dans des palox, il n'y a pas de carton, mais il y a toujours le sachet. Alors, c'est des sachets de 10 kilos, hein, mais règles sanitaires aujourd'hui obligent. On ne peut pas les avoir en température ambiante ou sans emballage autour. Donc, il y a aussi un aspect sanitaire à prendre en compte. Mais voilà, il n'y a pas de taillage. Tout est fait sur la cuisine centrale. On a des coupes légumes. Voilà, on taille tout en brunoise, en mirepoix, en julienne, comme on a appris à l'école, en fait. Mais ils arrivent déjà épluchés, uniquement épluchés.
Et alors par rapport, justement, quand on fait du bio, l'intérêt du bio, c'est que dans la peau des fruits et des légumes, on sait que les vitamines sont en concentration beaucoup plus grande que dans le conventionnel, où justement, on leur donne des produits phytosanitaires de défense. Du coup, les fruits et légumes utilisent moins leur capacité de défense naturelle. Donc, c'est les vitamines C, de ce que j'ai compris, hein, qui se développe plus dans le bio. Donc, pourquoi éplucher dans ce cas-là, quoi ? Est-ce qu'il n'y a pas intérêt à garder justement la peau ? Alors, après, le melon, évidemment, mais voilà.
Alors, il y a des légumes qu'on n'épluche pas. Hein. Le potimarron, on ne va pas l'éplucher, mais sensiblement, c'est les produits à risque, en fait, les légumes. Tout le monde pourrait croire que du coup, ce n'est pas à risque. Au contraire, c'est à risque. Pourquoi ? Parce que ça pousse dans la terre. Et la terre, c'est un vivant. Donc du coup, il y a des traitements à faire. Donc la partie pluche est un traitement. On est quand même, encore une fois, soumis aux règles sanitaires. Quand vous nourrissez 14 000 repas, je peux vous dire, vous n'avez pas le droit à l'erreur. Deux enfants de malades, c'est une déclaration de TIAC. Donc nous, notre quotidien, c'est de faire la cuisine, mais de la faire sainement, surtout.
Je crois qu'il y a un effet de taille aussi, de contraintes liées à l'organisation de la cuisine et... plus complexe sur des cuisines où on fait plus de 10 000 repas. Voilà.
À Romainville, on est passé justement on est en train de passer de cuisine centrale liaison froide à cuisine sur place. Et ouais, justement, il n'y a plus ces problématiques-là. Quoi. Sur les légumes bruts, ils sont nettoyés, ils sont lavés avec du vinaigre blanc. On évite le chlore. Bon, ça fait 6 mois que c'est ouvert, on n'a pas eu de problème sanitaire. Et globalement, il y a eu des cas d'intoxication en France, etc. Mais le problème sanitaire qu'on a eu, c'était justement avec des livraisons de produits surgelés qui nous venaient de la liaison froide, quoi, avec du moisi retrouvé dans les plats. Quoi. Mais voilà, les légumes qui arrivent déjà, le cuisinier, si le concombre il est pourri, il va s'en apercevoir tout de suite. Il le coupe, s'il est frais, il va le couper, ça va être mangé dans... quelques heures plus tard, donc je pense qu'il y a moins de risques à ce niveau-là. Et sinon, ouais, j'invite vraiment, en fait, le collègue de Strasbourg qui dit l'intention politique de remettre de mettre les cuisines dans les écoles et à commencer tout de suite, parce que ça prend du temps. Nous, on a commencé cette année, on sait que ça va prendre 7-8 ans pour faire basculer les 16 écoles de la ville. Alors, on est 30 000 habitants, 3 500 élèves, 2 500 repas. Voilà, il y a un ordre de 1 à 10 avec Strasbourg, donc ça va peut-être mettre plus de temps. Donc voilà, je pense qu'il ne faut pas perdre de temps si on est dans ce projet politique-là.
De toute façon, je crois qu'on a on a pas mal de marge de progression à faire. Et voilà. Déjà, si on pouvait introduire beaucoup plus de produits bio, ce serait fantastique dans nos cantines. Aller à 100%, voilà.
Bonjour, moi je suis diététicienne en restauration collective en région parisienne et je voulais juste savoir, en fait, les fréquences sont obligatoires en restauration collective. Et je voulais savoir votre carte, parce que 100% de bio en traiteur est s'adapter à ce que peuvent vous donner les agriculteurs ou les producteurs. Enfin, c'est plus simple. Donc, qu'est-ce que vous avez à votre carte et quels sont les produits que vous ne pouvez jamais mettre parce que vous voulez être 100% bio?
Alors, oui, donc effectivement, bah, du coup, maintenant, avec l'expérience, on sait ce qu'on est capable d'avoir à quelle période de l'année. Après, dans ce qu'on peut pas faire, j'ai envie de vous dire tout ce qui vient pas de chez nous. En fait, par exemple, on n'a pas de riz, on n'a pas d'avocat, on n'a pas de saumon, on n'a pas de fruits exotiques, on n'a pas de chocolat, on n'a pas de voilà. Donc tous ces produits-là, on n'a pas d'orange, de clémentine. C'est à un moment donné, quand tu reprends ta liste de recettes, tu te dis bah ça on peut pas, ça on peut pas. Et puis on cherche des alternatives locales quand on veut. Par exemple, le chocolat, ben oui, on a trouvé des alternatives avec du pralin parce qu'on a des noisettes, on en trouve, pas en grande quantité, mais on peut. Et surtout, bah voilà, si on peut pas, on peut pas. Et c'est vrai que bah, les 6 premiers mois avant d'ouvrir la cuisine de demain, on avait déjà recruté une chef de cuisine pour créer, pour imaginer tout ça. Moi, j'avais déjà fait tout le travail de répertorier, de voir ce qui était disponible. Et en gros, c'était voilà, tout ça, c'est ce qu'on a. Qu'est-ce qu'on peut cuisiner maintenant? Et c'est vrai que maintenant, bah, on a à peu près 400 recettes qu'on peut diffuser comme ça sur l'année, entrée, plat, dessert.
Merci beaucoup. Je crois qu'il va falloir qu'on rende le micro. Merci à nos 4 intervenants. Merci à tous d'avoir participé à cette conférence. Merci à toute l'équipe. Et puis, vous pouvez nous rejoindre sur le stand de l'Agence Bio pour poursuivre les discussions et puis prendre une collation et manger un bout. Voilà. Donc, bio, bien sûr. À bientôt et merci à tous.